Une fois qu'on a délimité les milieux polaires et qu'on cherche à les caractériser, la première chose évidemment qui frappe, c'est la question du climat. Et évidemment, de la rigueur du climat. Hein, j'ai choisi sciemment un milieu où la pression des contraintes naturelles est très forte. En effet, en termes de climat rigoureux, on a dans les milieux polaires, parmi les climats les plus contraignants qu'on retrouve à l'échelle du globe, quelques exemples de conditions climatiques pris très ponctuellement avant de voir ça un peu plus en détail. Par exemple, ici, au nord du Canada, à la station de Resolute, on est au 74e degré de latitude. Je vais y arriver. Donc on est au-delà du cercle polaire. Hein. On n'est pas encore au niveau du pôle Nord, qui est à 90 degrés. Mais on est sur une température moyenne annuelle, de moins 16 degrés. De moins 16 degrés. Je rappelle qu'à l'échelle de la planète, la température à peu près moyenne, c'est plutôt de l'ordre de 15 degrés. Ok ? C'est ce qu'on observe, nous, dans les régions tempérées. Là, on est sur une température moyenne de moins 16 degrés. Donc évidemment, c'est quelque chose de très contraignant. Le nombre de jours sans gel, c'est-à-dire le nombre de jours où il ne gèle pas, c'est seulement 9 sur l'ensemble de l'année. Donc ça veut dire que toute l'année, on est dans des conditions de gel. Alors ça va être très contraignant pour plein de choses. Évidemment, ça va être contraignant pour des activités directes, par exemple... Pour nous, pour tout ce qui est accès à une eau liquide, des choses comme ça, c'est contraignant. Pour tout ce qui est canalisation, vous imaginez bien la contrainte que ça va représenter. Ça va être aussi une contrainte écologique. Quand l'eau est gelée et qu'elle n'est plus accessible sous forme liquide, que ce soit pour les végétaux, pour les animaux, évidemment, c'est une ressource qui devient plus compliquée à mobiliser. Le record en température, c'est la base russe. Donc là, on est plus dans l'Arctique, on est dans l'Antarctique, donc au pôle sud. C'est une base scientifique qui est située au centre du continent antarctique, qui est la base russe de Vostok, où on a enregistré des températures de près de moins 90 degrés. Alors, exactement moins 89,3. Donc évidemment, c'est très froid. Là, vous pouvez pas... Ce n'est pas des conditions dans lesquelles vous pouvez vraiment vivre. D'ailleurs, il n'y a pas forcément de vie permanente sur cette base-là. C'est des missions qui vont et qui viennent. Si on regarde ça un peu plus en détail, voici des données qui viennent de la station française Dumont-Durville, toujours en Antarctique, qui est une base scientifique également, qui a été en activité où les mesures là ont été faites entre 1956 et 2006. Donc c'est intéressant parce qu'on a une longue donnée de série. Le minimum qui a été enregistré, sous abri toujours, c'est-à-dire à l'abri du vent, etc., c'est moins 40 degrés. C'était en été pour nous, mais comme on est au pôle sud, c'est l'hiver, okay, donc au mois d'août 1990, vous voyez, moins 40 degrés. On est toujours dans l'Antarctique, par rapport à Vostok, on verra, il y a une sacrée différence, il y a 40 degrés d'écart, 50 degrés d'écart dans les minimums, c'est normal. Hein. Là, on est dans une région qui est côtière, on verra qu'il y a une grosse différence. Et le maximum, c'est-à-dire sur 50 ans de données, la température maximum qui a été enregistrée, c'est 10 degrés. Okay? Donc il n'a jamais fait plus de 10 degrés pendant 50 ans. Enfin, 9,9 si on veut être précis. Et c'était en décembre, donc qui correspond chez nous à l'hiver, mais qui correspond à l'été austral, évidemment. Vous avez ici l'évolution annuelle des températures sur... notamment l'année 2006, enfin un peu plus, ça commence fin 2005 et ça finit début 2007. Vous avez la température minimum et la température maximum. Okay? Comme ça, vous avez la variation au sein de l'année. Si on regarde la température maximum, elle est plus importante pendant l'été austral, c'est-à-dire l'hiver chez nous. Vous voyez que le maximum est atteint en janvier, à peu près 5-6 degrés. Et ensuite, ça descend jusqu'au mois de juillet, août, septembre, qui correspond à l'hiver austral, où là, la température maximum de ces mois-là, on est à moins 5, moins 10 degrés. Et ça remonte. Et puis les températures minimum suivent à peu près la même évolution. Sauf que pendant les mois les plus chauds, la température minimum, c'est moins 7 degrés. Et pendant l'hiver austral, on en arrive à des températures de moins 30 degrés. Donc ça veut dire qu'en gros, en été, il fait entre moins 5 et plus 5 degrés. Ça, c'est l'été. Okay. Et en hiver, il fait entre moins 30 et moins 10 degrés. Donc voilà les conditions en termes de température et tout ça sous abri, c'est-à-dire abrité de l'effet du vent qui peut accentuer cet effet de froid. Donc on voit tout de suite les conditions climatiques contraignantes. À cela, il faut rajouter un phénomène assez important qui est la question du vent. En effet, il y a des vents, alors notamment en Antarctique, mais aussi un petit peu en Arctique, notamment en Antarctique, il y a des vents qui sont assez importants, assez réguliers, dans le sens où c'est fréquent. Sur les côtes, notamment, on enregistre en permanence, quasiment en permanence, des vitesses de vent entre 30 et 70 km/h. Et on a notamment enregistré des rafales de vent jusqu'à plus de 300 km/h. 300 km/h, ça correspond au typhon qui vient de se produire aux Philippines. C'est énorme, évidemment, cette vitesse de 300 km/h. Toujours au niveau de la base, ça c'est des observations qui ont toujours été faites au niveau de la base du mont d'Urville. Une des conséquences de ce vent, c'est qu'il va donner la sensation qu'il fait encore plus froid que ce qu'il ne fait vraiment. Donc les températures qu'on a mesurées sous abri, il faut encore les considérer à la baisse, parce que le vent accentue l'effet de froid. Vous avez ici un tableau qui vous montre comment le vent va avoir tendance à abaisser cette sensation de froid. On parle de froid ressenti. On parle de froid ressenti. On peut tous l'expérimenter, hein. On se met dehors à l'abri du vent, ou on s'expose au plein vent, il fait la même température de base, mais la sensation que l'on a est évidemment très différente. Donc vous avez ici, pour les différentes vitesses de vent, la température ressentie par rapport à des vitesses, à des températures réelles. Donc par exemple, si on prend une température en rouge ici sans vent, prenons par exemple une température de moins 9 degrés, si vous avez ici tout en bas 67 à 74 km/h de vent, donc en gros 70 km/h de vent, il fait moins 10 degrés, mais en fait vous avez la sensation qu'il fait moins 35 degrés. Donc il y a 25 degrés d'écart en termes de ressenti. Donc le vent accentue l'effet de froid. Donc il y a les valeurs que je vous ai données d'avant du mont d'Urville, là, entre moins 10 et moins 30 degrés l'hiver, mais en fait la sensation que l'on a, elle est encore plus forte à cause du vent. Donc c'est encore plus contraignant que ce que je vous expliquais précédemment. Et évidemment, ça marche pour toute la température. Donc quand il fait moins 30 en hiver, si vous avez 70 km/h de vent, en fait vous avez moins 30, mais vous avez l'impression qu'il fait moins 70. Donc c'est évidemment un peu problématique. Pourquoi est-ce qu'on a ce climat très rigoureux? La principale cause, c'est directement, enfin c'est le bilan radiatif. Et notamment un bilan radiatif déficitaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des pertes de chaleur. Qu'est-ce que ça veut dire, un bilan radiatif déficitaire? Ça veut dire qu'au niveau des pôles, le rayonnement solaire, qui est la principale source de chaleur, okay, il arrive avec un angle d'incidence qui est très faible. Donc non seulement il arrive avec un angle d'incidence qui est très faible, c'est-à-dire qu'il va frapper la Terre à cet endroit-là de manière assez indirecte, et non pas directe comme il pourrait le faire au niveau de l'équateur, au niveau des pôles, au niveau des tropiques, pardon. Donc il va avoir un angle d'incidence assez faible, et en plus, comme il entre dans l'atmosphère avec un angle assez faible, il va traverser des couches d'atmosphère beaucoup plus importantes. Donc en quelque sorte, il va être filtré. Le résultat, c'est que ce rayonnement solaire, quand il arrive au pôle, il est beaucoup moins puissant. Il est beaucoup moins puissant, environ 40% moins important par rapport à ce que l'on peut observer au niveau de la zone intertropicale. Donc, le rayonnement qui arrive, il est moins puissant, c'est-à-dire que ça chauffe moins. Deuxième élément qui va participer à un bilan radiatif déficitaire, c'est une très forte réflexion de l'énergie solaire, c'est-à-dire que le rayonnement, il arrive. Et en fait, dans ces milieux polaires, on a des grandes surfaces englacées ou enneigées qui sont blanches. Et une des particularités des surfaces blanches, c'est qu'elles vont renvoyer ces rayonnements solaires. On parle d'albédo. L'albédo, c'est justement la capacité d'une surface à renvoyer un rayonnement. On estime que l'albédo moyen à la surface de la Terre, c'est-à-dire la quantité de rayonnement qui arrive et qui est renvoyée, qui est réfléchie, c'est 10 à 15% en moyenne sur la Terre. Quand c'est de la neige ou de la glace, quand c'est de la neige ou de la glace qui recouvre le sol, l'albédo, il est de 50 à 80%. C'est-à-dire que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de rayonnement qui arrive, et en plus, une grande partie de ce rayonnement qui arrive, il est renvoyé à l'atmosphère. Donc il va pas participer, il va pas pouvoir réchauffer, il va pas pouvoir réchauffer le sol, puisqu'il est renvoyé. Pour faire l'expérience de cet albédo, c'est assez simple, hein. Vous prenez en été, vous mettez une voiture blanche, une voiture noire exposée au soleil, et vous allez toucher à la carrosserie. Et en fait, la voiture noire, elle absorbe le rayonnement, la couleur noire absorbe le rayonnement, et du coup, elle prend plus de chaleur. Donc une surface noire va être plus chaude qu'une surface blanche, parce que la surface blanche va avoir tendance à renvoyer le rayonnement et donc à moins chauffer. C'est d'ailleurs pour ça qu'une surface noire apparaît noire, c'est parce que comme elle absorbe le rayonnement, il n'y a pas de couleur qui ressort, hein, il n'y a pas de couleur qui nous est renvoyée, donc la surface apparaît noire parce qu'elle absorbe tout le rayonnement. Alors qu'une surface blanche, au contraire, elle en renvoie l'essentiel, donc elle nous apparaît en bleu. Avec une légère différence entre les deux pôles, pôle nord, pôle sud, l'Antarctique est en moyenne 10 degrés plus froid que l'Arctique. On y reviendra. Mais les deux observent le même phénomène, hein. Mais l'Antarctique est en moyenne un peu plus froide. Il y a plus de vent, il y a plus de surface continentale, il y a plus d'altitude aussi. Voici une carte qui illustre ce que je viens de vous expliquer avec la quantité de rayonnement solaire absorbé par la Terre. Donc là, c'est sur une année qui nous sert d'exemple, 1987, qui n'a rien d'exceptionnel, hein, qui est représentatif de ce qui se passe. Et ce que l'on observe évidemment, c'est que, vous voyez, le rayonnement qui peut être mesuré en watts par mètre carré, donc des watts, c'est comme de l'énergie pour une ampoule, des choses comme ça, c'est la quantité d'énergie absorbée par mètre carré de terrain. Et on voit ici que sur les zones polaires, le résultat, c'est qu'on est autour d'une centaine, un peu moins de 100 watts par mètre carré, alors que dans les zones intertropicales, on peut monter entre 200, voire même jusqu'à 400 watts par mètre carré. Okay? Donc, un facteur de contrôle qui est un facteur de contrôle climatique, directement lié à la forme de la Terre et au fait que les rayonnements, ils arrivent à cet endroit-là, avec un angle d'incidence qui fait qu'ils sont moins forts. Et en plus, quand ils arrivent, ils sont en grande partie renvoyés dans l'atmosphère. Résultat, les sols ou les zones englacées reçoivent très peu de chaleur. Il existe une certaine forme de variabilité. Ça, c'est des grands traits généraux que je vous ai donnés. Il existe une forme de variabilité quand même interne. C'est-à-dire que ce n'est pas partout pareil. Premier facteur de variabilité, évidemment, la latitude. Okay. Plus vous allez vous rapprocher des pôles nord et des pôles sud, normalement plus il fait froid. Okay. Autre facteur de variabilité important, la distance à la côte. La distance à la côte, ça c'est notamment valable pardon, pour l'Antarctique, qui est une grande masse continentale. Il y a un effet un petit peu comme chez nous, que les masses océaniques vont avoir tendance à tempérer un peu la rigueur du climat. Donc quand on rentre dans les terres, il va faire en moyenne plus froid. Regardez l'exemple ici que je vous ai donné sur l'Antarctique. En moyenne, sur la côte antarctique, il fait moins 10 degrés à peu près. Ça varie entre 0 et moins 30 degrés. Alors que quand on rentre dans les terres, notamment par exemple sur la base de Vostok, la moyenne, elle est de moins 50 degrés, donc c'est-à-dire 40 degrés de moins en moyenne. Et on varie entre moins 30 et moins 60. Donc vous voyez une différence qui est sensible. Une différence qui est sensible, qui est liée à la distance par rapport aux masses océaniques qui vont avoir tendance à adoucir, entre guillemets, un peu le climat, et qui est liée aussi à l'altitude, parce que ces continents-là sont des continents qui ont un certain relief, et on retrouve l'effet qu'on retrouve en montagne, qui est que quand on va rentrer dans les continents, on va monter en altitude, et qui dit plus haut en altitude, dit plus froid, c'est ce qu'on a vu quand on a parlé des montagnes. Donc c'est l'altitude, le troisième facteur qui va changer les choses. On estime pour ces continents-là qu'à 3000 mètres, ce qui est possible en Antarctique notamment, un petit peu aussi, un peu moins, mais dans le même ordre de grandeur en Arctique, on a à peu près 20 degrés d'écart par rapport au niveau de la mer. Donc dans le sens où on perd 20 degrés, hein, évidemment. On perd 20 degrés par rapport par rapport aux côtes. Donc les deux se combinent, hein, c'est en partie corrélé. dernier facteur de variabilité, la présence de courants marins qui vont pouvoir venir éventuellement modifier localement les conditions climatiques. L'exemple bien connu, c'est celui du Gulf Stream. Le Gulf Stream, c'est quoi? C'est un grand courant océanique, c'est-à-dire c'est des grands déplacements de masse d'eau dans les océans. Et ce Gulf Stream, c'est un courant océanique qui part de la mer des Caraïbes, okay, du golfe du Mexique, si vous voulez, et qui emmène de l'eau chaude et qui traverse tout l'Atlantique en direction de la Scandinavie. Donc on a de l'eau chaude qui part des eaux tropicales et qui traverse l'océan et qui vient ensuite se mélanger avec les eaux au niveau de la Scandinavie. Et l'arrivée de cette masse d'eau chaude, elle va avoir tendance à diminuer un peu l'effet de la rigueur du climat. Donc elle va améliorer, entre guillemets, les conditions climatiques, elle va réchauffer un petit peu l'atmosphère parce qu'on a de la chaleur qui arrive tout simplement. Hein, c'est comme si vous mettez de l'eau chaude dans un bain froid, quoi. Troisième point concernant les caractéristiques de ces milieux, on va regarder un petit peu plus précisément, parce que je pense que c'est souvent assez confus dans l'esprit des gens. Qu'est-ce qui relève de la terre, qu'est-ce qui relève de la glace et qu'est-ce qui relève de l'eau liquide, de la mer dans ces milieux-là. Alors on va distinguer d'une part l'Arctique et après on fera l'Antarctique. Donc, premier élément concernant l'Arctique. Alors, l'Arctique, c'est essentiellement un océan. Okay? Donc le pôle Nord, c'est un océan. Quand vous regardez ici cette carte, on voit bien que on a l'océan Arctique qui est situé au centre ici. Donc le pôle Nord, en fait, se situe au milieu d'un océan. Il n'y a pas de roche, il n'y a pas de substratum qui affleure au-dessus de l'océan, c'est de l'eau. Il fait environ 13 millions de kilomètres carrés, cet océan. Et comme les océans, hein, c'est quelque chose qui peut être très profond. C'est-à-dire qu'on peut avoir des hauteurs d'eau dans cet océan qui vont jusqu'à près de 4000 mètres. Hein, donc on a vraiment un océan avec toutes ses caractéristiques classiques, qui est notamment cette grande profondeur. Il communique avec les autres océans. En fait, on parle des océans, mais c'est un seul océan, l'océan mondial, parce qu'ils sont tous connectés les uns aux autres, alors plus ou moins connectés. Il connecte notamment avec l'océan Atlantique par le détroit ici de Fram. Okay. Donc là, vous avez le Groenland, vous avez une île ici qui est une île qui appartient enfin, à la Scandinavie. Vous avez ensuite la mer de Barents qui va ensuite baigner tout le nord de la Russie. Donc là, c'est la connexion avec l'océan Atlantique. La connexion avec l'océan Pacifique, c'est le fameux détroit de Bering. C'est le fameux détroit de Bering. Qui aujourd'hui, vous voyez, c'est assez étroit, cet endroit-là. Les deux continents se touchent quasiment. C'est là où la Russie et les États-Unis sont le plus proches. Détroit de Bering, qui d'ailleurs, dans l'histoire, n'a pas toujours été un détroit. Parfois, c'était des ponts de glace qui reliaient les deux continents. C'est comme ça que le continent américain a été colonisé par des populations venant d'Asie, okay, à des périodes où on pouvait passer simplement parce que c'était de la glace, donc il suffisait de traverser, il n'y avait pas d'océan à ce moment-là. Et puis enfin, il y a une mer ici qui est intéressante, c'est la mer de Beaufort, on y reviendra, parce qu'elle pourrait constituer aussi un passage vers l'océan Atlantique, ici par le nord du Canada. Donc toute cette zone-là, qui est située entre l'Alaska et le Canada, est ce qu'on appelle la mer de Beaufort. Cette mer, cet océan, pardon, pas cette mer, cet océan, il est l'objet de circulations océaniques complexes, c'est-à-dire qu'il y a des courants en surface et en profondeur que l'on peut observer. Comme on peut le voir ici sur cette carte, vous avez un certain nombre de courants, c'est-à-dire que l'eau, elle n'est pas comme dans un lac, toute calme, etc. L'eau circule dans cet océan, selon des courants dominants qui vous sont représentés sur la carte ici. Alors vous avez ici une distinction entre les courants chauds et les courants froids. En rouge, c'est les courants chauds, et en bleu, c'est les courants froids. Donc vous avez, c'est logique, des courants chauds qui arrivent du sud. Donc vous avez le reste du Gulf Stream qui arrive ici, en direction de la mer de Barents notamment, et puis du détroit de Fram. Et puis vous avez des courants chauds qui arrivent par le détroit de Bering. Alors évidemment, quand ils arrivent à cet endroit-là, ils rencontrent de l'eau froide, donc la chaleur va disparaître et l'eau va devenir froide. Et ensuite, on va quand même avoir des courants, mais qui sont plutôt des courants froids. Et notamment, vous avez un courant circulaire, okay, qu'on appelle le courant de Beaufort ici, et qui tourne sur l'ensemble de l'océan, dans cette direction, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis ensuite, vous avez des courants froids qui ressortent de l'océan, notamment par ici, ou par le détroit de Fram ici. Donc vous avez des courants froids qui vont ressortir. Je ne le développe pas plus, mais c'est important de comprendre ça, parce qu'en fait, ça veut dire que fonctionnellement, cet océan, il est connecté avec les autres océans mondiaux. Ça veut dire que si quelque chose change dans cet océan, si les courants changent dans cet océan, ça va changer les courants que l'on peut observer à d'autres endroits de la planète. Ce qui fait sens quand on réfléchit par exemple aux questions de changement climatique. Okay, on sait que l'océan joue un rôle très important dans la régulation du climat, notamment en transférant des masses de chaleur importantes des tropiques vers les pôles. Donc, et ça veut dire que toutes les régions du monde sont connectées. Hein. Les courants qui se déroulent ici, qui se produisent ici, les échanges d'eau, ils vont également avoir un impact potentiel à des distances très importantes, et pas seulement sur ces régions-là. En effet, il existe à l'échelle du globe des circulations d'eau très importantes que l'on appelle la circulation thermohaline. Alors thermohaline, qu'est-ce que ça veut dire? Thermo, ça veut dire la chaleur, okay, et haline, c'est le sel. Haline, c'est le sel. En fait, les océans sont traversés par des courants qui vont avoir tendance à transporter, à faire bouger l'eau à l'échelle du globe. Et la mobilité de cette eau, elle dépend notamment de la chaleur et de la salinité de l'eau. Okay? Une eau froide, elle a tendance à être plus dense, donc elle va aller vers le fond. Une eau salée, elle a tendance à être plus dense, donc elle va aller vers le fond. Au contraire, une eau plus chaude, elle va avoir tendance à remonter, et une eau moins salée, elle va avoir tendance à remonter. C'est pour ça qu'on parle de circulation thermohaline, parce que les deux facteurs interviennent. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en fait, cet océan, alors je parle de l'océan Arctique, mais c'est la même chose pour l'océan Antarctique, il est connecté, il participe à ce grand mouvement. Je reprends mon histoire de Gulf Stream. Vous avez en effet une circulation d'eau chaude qui part ici du golfe du Mexique, qui traverse tout l'Atlantique, qui baigne une partie de l'Europe et de la Scandinavie, ce qui explique ce courant chaud que pour la même latitude, si vous comparez la latitude, il fasse plus chaud en Europe qu'en Amérique du Nord. Hein, pour une latitude équivalente, par exemple 45 ou 50 degrés de latitude, les températures vont être un petit peu plus fortes en Europe qu'en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que nous, on est baigné par un courant chaud qui va avoir tendance à réchauffer un petit peu le climat. Cette eau, quand elle arrive dans l'océan Arctique, elle plonge en profondeur et il y a un courant froid qui en repart, qui lui va retraverser tout l'Atlantique. Et ces courants, ensuite, ils sont connectés à l'océan Antarctique et également à l'océan Pacifique et à l'océan Indien. Je ne rentre pas dans le détail, c'est quelque chose qu'on voit en licence 3, mais simplement pour vous dire que ce qui se passe dans cet océan, les circulations d'eau qui se passent dans cet océan, elles sont directement liées à des circulations qui sont à des échelles plus importantes, planétaires, et qui sont très importantes pour la régulation du climat. Voilà, c'est ce que je vous disais. Alors, donc l'Arctique, c'est essentiellement un océan, et en fait, une partie de cet océan va être gelée. Une grande partie de l'océan va être gelée et c'est ce qu'on appelle la banquise. Okay? C'est ce qu'on appelle la banquise. On parle aussi parfois de pack. La banquise, c'est quoi? C'est un amas de glace flottante qui est formé par la congélation de l'eau de mer. Donc c'est de l'eau de mer qui va former comme des glaçons, si vous voulez. mais à une échelle plurikilométrique. Okay? À une échelle plurikilométrique. Donc c'est des amas de glace flottante formés par la congélation de l'eau de mer. Cette banquise, elle est de taille variable. Elle est en partie constituée d'une glace annuelle qui va fondre et qui va se reformer tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la banquise qui fond en été et qui va se reconstituer en hiver, quand il fait plus froid. Donc en début d'hiver, quand la glace se forme, bah c'est de l'eau de mer qui gèle. On parle d'embâcle. On parle d'embâcle. Et au printemps, quand la température se réchauffe, une partie de cette banquise fond, c'est ce qu'on appelle la débâcle. Okay? Une partie de cette banquise fond, c'est ce qu'on appelle la débâcle. L'embâcle et la débâcle. Il faut imaginer des énormes glaçons flottants, mais ils sont flottants. Ils ne recouvrent pas de la masse, un substratum ou une masse continentale. Le résultat, c'est que cette banquise, en partie, elle flotte. Hein? En partie, elle flotte. Et si vous avez un bout qui se détache, il va pouvoir se déplacer avec les courants. Okay? Il va se déplacer. Vous mettez un glaçon dans une bassine, vous soufflez dessus, il se déplace parce qu'il flotte sur l'eau. Okay? Soit sous l'action des courants marins qu'on vient de voir, soit sous l'action du vent. Cette banquise, généralement, elle n'est pas très épaisse quelque part. Hein. On estime que bah, ça peut faire de quelques centimètres et que généralement, le maximum d'épaisseur de banquise, c'est environ 2, 3, 4 mètres. Okay. Donc cette couche de banquise, elle fait entre quelques centimètres jusqu'à quelques mètres, mais rarement plus de 4 mètres. Donc c'est pas non plus une couche qui est très épaisse à l'échelle de l'océan. Je vous rappelle que cet océan, il fait jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Alors, quand on est en surface, 4 mètres, c'est suffisant pour marcher dessus, etc. Mais en termes d'échelle par rapport à l'ensemble de l'océan, ce n'est pas quelque chose qui est si important que ça. Attention, il ne faut pas confondre la banquise avec ce qu'on appelle les icebergs. Les icebergs, c'est quoi? Ce sont des blocs de glace d'eau douce. Ce sont des blocs de glace d'eau douce, rien à voir. Des blocs de glace d'eau douce qui sont détachés, c'était là le che, qui sont détachés d'un inland 6. On va revenir sur ce que c'est qu'un inland 6. La banquise, c'est de l'eau salée. Un iceberg, c'est de l'eau douce. Les icebergs, on les connaît bien, ou les morceaux de banquise, on les connaît bien. Ils ont été popularisés parce qu'ils ont créé des problèmes, notamment en termes de navigation. On peut penser à l'histoire du Titanic. Alors à gauche, vous avez le vrai bateau, à droite, vous avez le film qui avait été fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas du Titanic? En 1912, au mois d'avril, on rentre dans l'été. Okay? On rentre dans l'été. Donc la banquise commence à fondre, il y a des morceaux aussi de l'inland 6 qui partent, il y a des icebergs qui commencent à dériver dans l'océan. Okay. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé. Où est-ce qu'ils se sont distribués? Le bateau, le Titanic, avait été construit pour ne pas couler, évidemment, comme la plupart des bateaux. Il heurte un iceberg qui fait à peu près, pour la partie émergée en tout cas, une centaine de mètres de long. Et 20 à 40 mètres de haut. Donc vous voyez que ce n'est pas de la banquise. La banquise, ça ne peut pas faire 20 à 40 mètres de haut. Hein? La banquise, je vous l'ai dit, ça fait quelques mètres de haut. Là, c'était un bloc de glace qui s'était détaché du Groenland et qui a dérivé et qui s'est retrouvé à 40 degrés de latitude nord. Alors j'ai dû mettre la carte ici. Attendez, j'ai dû le... Voilà, c'est ici. C'est là qu'on a retrouvé, c'est là que le bateau a rencontré, a percuté l'iceberg. 40 degrés de latitude nord, c'est l'altitude de la Corse, ou la latitude de la Corse ou de Rome. Ça veut dire que c'est très au sud, ce qui nous semble être, nous, un climat méditerranéen assez doux. Mais comme je vous l'ai dit, dans l'océan Atlantique, il y a des courants chauds qui remontent de ce côté-là, et il y a des courants froids qui descendent dans la partie ouest de l'océan. Donc comme il y a des courants chauds qui remontent dans la partie est, ici, vous voyez tous les petits points,